toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Info Club Sandwich, votre émission quotidienne d'actualité locale et associative, réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Nous sommes le mercredi 1er octobre 2025, moi c'est Margot, et aujourd'hui je me charge de l'animation et de l'agenda culturel en fin d'émission. On continue notre semaine d'interviews dédiée à la Fête de la Science, événement qui se déroulera du 3 au 13 octobre 2025. La fête s'articulera cette année autour du thème de l'intelligence sous toutes ses formes. Côté musical, on va écouter Pockets de Panic Shax, et on finira cet épisode avec Don't You Want Me de The Human League. Cette fois-ci, Aline a interviewé Cindy Jakobzik, médiatrice culturelle à Amiens Métropole, et David Durand, art et culture à l'UPJV. Aline, c'est à toi.
Bonjour, je suis aujourd'hui avec David Durand et Cindy Jakobzik. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter et me parler de votre job?
Oui. Alors, donc, moi, c'est Cindy Jakobzik, je suis médiatrice culturelle à la direction de l'action culturelle et du patrimoine à Amiens Métropole, et je coordonne la Fête de la Science pour les scolaires.
Bonjour, donc je m'appelle David Durand, je suis vice-président de l'Université de Picardie-Jules Verne et je suis en charge de la médiation scientifique, de la culture et de la communication. Et donc, au même titre que Cindy, je coordonne pour l'établissement la Fête de la Science et d'autres événements grand public.
Et donc, vous l'avez dit, vous êtes aujourd'hui ici pour nous parler de la Fête de la Science. Quelle est votre implication dans la Fête de la Science? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans les grandes lignes, et après on va rentrer dans les détails, de ce que vous organisez à l'occasion de cette Fête de la Science?
Alors donc nous, avec la Direction de l'Action Culturelle et du Patrimoine, chaque année, on organise un Festival des Sciences à destination des scolaires. Donc c'est une semaine qui est balisée exclusivement pour eux, dans un lieu où l'on retrouve plusieurs structures et partenaires culturels qui vont délivrer des ateliers autour de la science, mais pas que.
Et pour l'Université de Picardie-Jules Verne, de manière un peu similaire, on a un village des sciences qui est décliné en deux parties. Une partie aussi pour les scolaires pendant la semaine, et puis une partie grand public qui a lieu le samedi et qui est ouverte à tout le monde.
Et le thème de 2025 pour la Fête de la Science, c'est intelligence au pluriel. Comment vous l'avez décliné chacun dans vos animations? Comment on explique l'intelligence au grand public et aux scolaires?
Alors, nous, pour ça, il va falloir un petit peu parler de toutes les structures et tous les partenaires culturels que l'on accueille. Donc, je vais vous faire une longue liste, puisque nous sommes 11 cette année. Il y a Amiens Métropole d'Art et d'Histoire qui va proposer un atelier autour de l'intelligence de la construction gothique. Donc, vraiment des maquettes pour voir un petit peu comment réfléchissaient les bâtisseurs de cathédrales au XIIIe siècle. Et donc, en collaboration avec le laboratoire du MIS, donc modélisation, informatisation et système de l'UPJV, qui va également nous proposer une application sur tablette pour que les élèves puissent reproduire en architecture finalement le montage d'un portail pour voir un petit peu de manière logique comment est-ce que ça se fait.
Donc très pratique.
Voilà, exactement. Alors après, il y en a plein d'autres, pour ne pas les citer. Il y a le CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le musée de Picardie, la maison de Jules Verne, mais également, bien évidemment, le zoo qui va nous accueillir cette année, qui va proposer également des actions. On va avoir également le Centre permanent d'initiative pour l'environnement Vallée d'Auty et de la Canche, les bibliothèques d'Amiens Métropole, le Jardin des Plantes, et je crois que j'ai fait à peu près le tour, les messagers du tri. Et voilà, ce qui est déjà pas mal. Et bien évidemment, l'UPJV également qui viendra animer un atelier chez nous le vendredi.
Donc beaucoup d'acteurs. Et justement, David, pour vous
Alors nous, de notre côté, je rappelle rapidement, l'université, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Donc on a des laboratoires de recherche et puis des composantes de formation. Et donc on décline ce thème à partir des ateliers qui sont proposés par les unités de recherche. Donc on a 36 unités de recherche, donc les 36 unités ne font pas toutes des ateliers, mais on a trois grandes familles de disciplines, donc les sciences humaines, les sciences qu'on pourrait appeler sciences dures, et puis la santé. Et donc, chacune de ces unités nous a proposé des ateliers ou en rapport direct ou en rapport un peu indirect sur les intelligences. Au départ, quand on a reçu le thème, tout le monde nous a dit on va parler d'intelligence artificielle, mais en réalité, l'intelligence artificielle, c'est qu'une toute petite partie de ce qu'on peut proposer, puisqu'il y a des intelligences qu'on peut regarder au niveau physiologique dans le cerveau, au niveau psycho, au niveau cognitif, l'intelligence des plantes, l'intelligence de tous les systèmes qui nous entourent. Donc on la décline de cette manière-là. Comment on retrouve l'intelligence dans tout un tas de disciplines ?
Donc si j'ai bien compris, c'est vos chercheurs qui ont proposé, eux, des ateliers de vulgarisation, si on peut...
Oui, sur leur thématique de recherche, mais comme chaque année, ils essayent de coller à la thématique. Quelquefois, c'est un peu plus compliqué et quelquefois, c'est un peu plus facile. En proposant une vision de leurs travaux, mais sous le regard du thème qui est proposé pour la fête de la science.
Et est-ce que vous pouvez, par exemple, nous donner un exemple d'atelier, peut-être un atelier coup de cœur, ou alors juste un bon exemple qui pourrait permettre à nos auditoristes de voir un peu ce que vous allez proposer à ce moment-là?
Alors, je ne vais pas parler de coup de cœur, puisque toutes les unités de recherche, elles ont leur importance. Mais si je prends un exemple, j'ai une unité qui s'appelle le CRPCPO, donc un centre de recherche en psychologie, et qui va nous parler des biais cognitifs, des cerveaux atypiques, des différents, en proposant par exemple des tests psychologiques, des jeux autour de la mesure de l'intelligence ou de logique. On a par exemple un autre laboratoire, le GRAMPS, qui va nous montrer comment l'intelligence se développe dès le plus jeune âge. Voilà, on a des aspects qui sont aussi bien physiologiques et des aspects qui sont plutôt psychologiques. Donc deux types de disciplines différentes qui traitent de ces aspects.
Et pour vous, Cindy, et notamment, du coup, vous avez des ateliers proposés au zoo et vous accueillez les scolaires. Est-ce que vous pouvez nous parler d'animations concrètes en fait, qui attendent les scolaires au zoo? Est-ce que vous avez des exemples aussi?
Oui, alors comme les années précédentes, finalement, nous sommes partis sur des ateliers sous forme de PAC. Donc finalement, les scolaires viendront sur une demi-journée au minimum pour faire plusieurs, deux à trois ateliers sur un PAC qu'ils découvriront sur place. Donc ce sera la surprise. Donc à voir s'ils se retrouveront avec... le jardin archéologique de Saint-Acheul, ou alors le musée de Picardie, ou alors une autre structure. Et donc, ce seront des ateliers d'une trentaine de minutes sur des thématiques, bien évidemment, qui parlent de l'intelligence, alors que ce soit autour du comportement animalier, par exemple, ce qu'on appelle l'éthologie, donc l'intelligence des animaux avec le zoo. On verra également l'intelligence du paysage et de la flore avec le CIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui fera un jeu autour du principe des mares et de leur écosystème. Donc vraiment, c'est extrêmement diversifié et n'en choisir qu'un seul, ce serait compliqué. Donc voilà, je vous invite à découvrir... les autres ateliers qui attendent les scolaires sur place.
Évidemment. Et est-ce que tous ces ateliers dont vous nous parlez là maintenant sont aussi accessibles au grand public ? Vous avez un temps donné pour le grand public, c'est bien ça ?
Alors oui, le samedi 11 octobre, donc le samedi qui suit cette semaine de scolaire, on va retrouver à l'UFR des sciences, donc au quartier Saint-Leu, à peu près les mêmes ateliers, mais cette fois-ci destinés au grand public. Donc n'importe qui, de n'importe quel âge, peut venir. Donc on va retrouver des ateliers autour de la géologie, de la santé humaine, le zoo d'Amiens qui vient nous rejoindre aussi, ainsi que le CIAP. Mais on a aussi l'association Planète Science qui vient avec un planétarium. Donc ça, je vous invite vraiment à venir parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de visiter un planétarium. C'est une animation qui a du succès, donc il faut la voir. On a une association qui s'appelle Nature en Fac aussi, une association étudiante qui va proposer des jeux et des quiz. Et puis ensuite, nos laboratoires habituels, donc le laboratoire MIS dont Cindy parlait, qui est aussi le laboratoire dans lequel je fais ma recherche, qui parle d'IA et de robotique, un laboratoire de maths, d'écologie, les médicaments, la chimie, en fait, on couvre beaucoup de disciplines de nos unités, donc ça, ce sera accessible le samedi, toute la journée, à partir de 10h jusqu'à 18h à peu près. pour le grand public, tout âge.
Est-ce que justement vous pouvez nous parler de l'intérêt pour le grand public de participer à cette fête de la science et à découvrir ce thème qui est intelligence au pluriel?
Je vais laisser David répondre en premier.
Alors nous, ben, forcément l'université elle a déjà cette vocation d'éducation, d'enseignement supérieur et donc de diffuser de la connaissance. Ça fait partie de nos missions d'enseignants-chercheurs, hein, de diffuser au grand public nos travaux. Donc ça, c'est pour notre mission à nous. Mais l'intérêt pour le grand public, c'est pour certains de franchir la première fois les portes d'une université. Peut-être qu'ils n'oseraient pas. Et donc là, sur un mode informel et ludique, leur montrer ce qu'on est, ce que nos chercheurs et chercheuses font dans les labos. Et puis aussi de désacraliser un peu ce que c'est que la recherche. C'est pas que des savants fous avec une blouse blanche et les cheveux hirsutes, mais aussi tout un tas de personnes différentes. Donc on a des jeunes, des doctorants, des étudiants, des chercheurs plus chevronnés qui vont montrer leurs travaux. Donc ça, c'est un peu la partie visible. Et puis la partie qui est plus importante pour la société, c'est de réussir à avoir un esprit critique, de comprendre comment est-ce qu'on appréhende l'environnement. Alors, notre environnement au quotidien, qu'il soit social, naturel et autres, de réussir à comprendre certains enjeux de la recherche, pourquoi est-ce qu'on mène certaines recherches, pourquoi c'est important, même la recherche fondamentale, on pourrait se dire il n'y a pas d'application, est-ce que c'est pourquoi on paye des impôts pour ça, c'est toujours important. Donc voilà, faire découvrir tous les aspects de la recherche, les retomber dans la société et puis aussi ouvrir les publics à être curieux, à comprendre ce qui se passe autour d'eux.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, alors nous, c'est vrai qu'on est plus dans la médiation culturelle, finalement, autour de l'architecture, du bâti, mais aussi du patrimoine immatériel et naturel. Et c'est vrai qu'on est sur un volet de vulgarisation scientifique également. Donc la porte d'entrée ici ne sont pas nécessairement les sciences, finalement. Mais c'est comment aussi déceler tout côté scientifique dans d'autres matières et puis bien évidemment démocratiser et vulgariser un peu toutes ces choses-là qui paraissent un petit peu inaccessibles pour les scolaires au premier abord et qui permettent finalement d'avoir des découvertes un petit peu ludiques autour de ces thématiques qu'on ne soupçonne pas nécessairement.
Et dernière question, quel retour pour vous, et que ce soit pour Amiens Métropole ou le PJV, quel retour attendez-vous de cette édition? Vous nous avez parlé un petit peu de sensibilisation, de vocation. Est-ce que vous attendez autre chose en plus de la fête de la science et du public que vous allez pouvoir voir?
Alors, en effet, puisque, comme on le disait, hein, l'événement fête de la science, c'est un événement qui est gratuit. Nous, de notre côté, à Amiens Métropole, on cherche à faire venir des élèves qui ne se déplacent pas habituellement. Donc, lorsque nous avons construit et répondu à l'appel à projet de la fête de la science, qui est coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons axé sur, finalement, le critère d'inclusion. Fait déjà partie d'ailleurs de l'appel à projet, mais au sens large du terme, on s'est dit qu'on inclurait non seulement les enfants, bien sûr, en situation de handicap, mais également les classes et établissements scolaires qui se situent dans les quartiers politiques de la ville, ceux qui sont en réseau d'éducation prioritaire, sans oublier les RPI et autres établissements qui sont en zone rurale et qui sont reculés et qui n'ont pas l'occasion de venir en temps normal. Donc la gratuité de l'événement, bien évidemment, fait qu'on se déplace peut-être un peu plus facilement. Et c'est ce que nous attendons aussi de cet événement, c'est de pouvoir faire bouger ces élèves qui n'ont pas l'occasion de le faire habituellement.
Et pour vous, David, et l'université aussi?
Alors comme je le disais précédemment, c'est une de nos missions, donc on n'a pas d'attente particulière. En revanche, c'est un bon exercice pour nos enseignants, nos chercheurs, nos étudiants, de réussir, c'est un exercice quelquefois un peu compliqué, de réussir à mettre à la portée de tout le monde des travaux qui parfois peuvent paraître complexes. Donc ça, c'est un premier enjeu pour nous en interne. Hein. On est content que nos collègues se plient à cet exercice. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire qu'on voudrait susciter des vocations? Oui, dans un sens, si on arrive à montrer à des élèves, alors que nous, ils sont plutôt au collège ou au lycée, qu'on peut venir à l'université, qu'on peut y faire des choses incroyables. C'est aussi une des retombées positives. Puis après, de manière plus générale, comme je le disais tout à l'heure, au moins réussir à montrer dans la société qu'il y a des enjeux qui sont importants et qu'il faut en prendre conscience, avoir l'esprit critique pour comprendre tous ces enjeux, oui. Je pense que ça, c'est une des retombées qu'on attend. On ne pourra pas forcément la mesurer, mais on espère qu'on va semer des petites graines dans l'esprit de tous nos visiteurs.
Où on peut retrouver tout le programme de la Fête de la Science? Vous pouvez nous...
Alors, il y a le site national de la Fête de la Science. Hein. Vous cherchez Fête de la Science dans votre navigateur et vous allez tomber sur le programme national qui est décliné en région et puis en établissement ou en structure. Sur le site de l'Université de Picardie Jules Verne, il n'est pas encore tout à fait complet, mais ça va arriver sous peu pour avoir le détail.
Alors, pour Amiens Métropole, pareillement, en effet, sur le site national de la Fête de la Science, on peut taper Amiens Métropole, on va tomber sur ce festival dédié aux scolaires qui se passera au zoo, donc du lundi 6 au vendredi 10 octobre. Et c'est également, on peut le retrouver aussi sur le site du zoo, puisque le zoo gère les réservations de l'événement.
Super. Eh ben, merci à vous deux d'être venus sur Radio Campus Amiens et on se retrouve assurément pendant la Fête de la Science alors.
Merci de nous avoir accueillis.
Merci.
Vous écoutiez Pockets de Panic Shack. Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM, en DAB+, et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. Elle sera aussi rediffusée à 18h comme d'habitude. Moi c'est Margot et je vous propose quelques actus. Demain, jeudi 2 octobre 2025, rendez-vous au Tas de Sable, centre national de la marionnette basé à Rivry, à côté d'Amiens. Il vous propose une seconde représentation du spectacle « Mont la girafe » du théâtre de marionnettes de Kharkiv au centre culturel de Kourou. L'histoire d'une girafe vivant dans un zoo sous occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. À travers les yeux d'un enfant, ce récit allégorique relie les horreurs passées à celles abordant des thèmes comme la solitude, la peur et la compassion. C'est au public à partir de 9 ans. L'entrée tarif plein est à 12 euros et à 5 euros en tarif réduit. Puis, ce week-end, à l'occasion de la deuxième édition de l'événement national Bibli en folie, les bibliothèques d'Amiens Métropole vous invitent à une journée festive et musicale ce samedi 4 octobre 2025. Bibli en folie vous invite à découvrir votre bibliothèque avec un regard neuf. L'édition 2025 est placée sous le signe du swing et mêlera ateliers pour petits et grands. De la découverte sans diablés des années 30, les bibliothèques se transforment en véritables scènes vivantes. Si certaines activités proposées nécessitent une inscription préalable sur le portail en ligne des bibliothèques, toutes sont gratuites et accessibles au plus grand nombre. Un peu plus loin, enfin, si vous avez besoin de souffler, rendez-vous à Saint-en-Amiénois. Le comité d'animation organise son troisième salon du bien-être à la salle Espérance, les samedis 4 et dimanche 5 octobre 2025. L'animation de ce salon sera faite par chaque exposant au travers d'ateliers collectifs sur stand ou non, tout au long de ces deux journées. L'entrée est gratuite, mais les ateliers sont payants et on vous conseille de vous inscrire au préalable car cela risque de se remplir vite. Vous pouvez contacter Dominique Archin au 06 46 67 51 89 pour tout renseignement. C'est la fin d'Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative réalisée par Radio Campus Amiens, disponible sur le 87.7 FM en DAB+ et en réécoute sur radiocampusamiens.fr. On finit avec le titre Don't You Want Me de The Human League et juste après, on écoutera l'émission de Gladys et Marie pour le troisième épisode de Un pont vers l'humain. Elles ont choisi de vous présenter le métier de médiatrice sociale. Donc voilà, merci à tous de nous avoir écoutés et à demain.
I picked you out, I should toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Amiens. Bienvenue dans l'émission Un pont vers l'humain, dédié aux initiatives qui rapprochent les citoyens des droits et services qui leur sont accessibles. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle, ancienne stagiaire de l'AFPA, spécialisée en médiation sociale. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous.
Bonjour à tous.
Je vais te poser quelques questions. Du coup, quelles compétences sont essentielles pour exercer la médiation sociale ?
Il faut beaucoup de compétences, d'après moi. Donc, la médiation sociale, c'est un métier centré sur la relation humaine. Je dirais la prévention des conflits et le maintien du lien social pour exercer efficacement plusieurs compétences. J'ai listé un petit peu plusieurs compétences. Donc, première compétence pour moi, c'est compétences relationnelles et communicationnelles. L'écoute active, l'empathie, la clarté d'expression et surtout la neutralité et l'impartialité. Pour moi, la deuxième compétence, ça serait la gestion des conflits. Il faut quand même une certaine connaissance des gestions des conflits, médiation et négociation. Maîtrise de soi et technique de résolution de conflits, désamorcer les tensions qu'il pourrait y avoir. Pour moi, une autre compétence importante, ça serait compétence sociale et interculturelle, connaissance des publics dont vous avez affaire, les jeunes, les familles précaires, la sensibilité interculturelle et surtout le travail en réseau. Et ma quatrième compétence, ça serait organisationnelle et professionnelle. Il faut surtout observer et analyser le sujet qu'on a devant vous et puis surtout la gestion du temps et les priorités. Intervenir efficacement selon l'urgence et le contexte. Et une petite cinquième, pour moi la dernière, c'est le savoir et les connaissances utiles. Il faut quand même savoir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde et puis pour pouvoir faire un cadre légal, les réglementations, etc. Bah, si je peux me permettre un dernier résumé en quelques phrases, le médiateur social, il doit combiner le savoir-être et le savoir-faire. C'est l'écoute, neutralité, respect et la gestion des conflits, orientation et travail en partenariat qui est très important.
C'est très intéressant et bien complet. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se former à la médiation sociale ?
Alors, les conseils pour moi, c'est se former à la médiation sociale, c'est un excellent choix. Si vous souhaitez travailler à la résolution de conflits ou à l'accompagnement de personnes en difficulté ou à la cohésion sociale dans les quartiers, les entreprises ou les institutions, je pourrais donner quelques conseils. Il faut comprendre d'abord le rôle d'un médiateur social. Il faut choisir une bonne formation. Moi, personnellement, j'ai une formatrice au top. Surtout, développer des compétences clés. Il faut être à l'écoute, active, empathie, neutralité. De toute façon, ces mots-là reviennent souvent. Il faut quand même acquérir de l'expérience pratique, il faut s'informer et se documenter. Et en dernier, il faut développer des qualités personnelles, être patiente, persévérante et gérer ses émotions, surtout ce que je ne savais pas faire au début, mais là, c'est parti. Avoir une ouverture d'esprit et le respect de la diversité culturelle et sociale.
Ce sont des bons conseils, merci beaucoup. Qu'est-ce qui motive à continuer dans ce métier malgré les difficultés ?
La motivation pour moi, ça serait la satisfaction d'aider et d'accompagner les personnes, la conviction de l'importance du rôle, on est une sorte de facilitateur de dialogue entre les personnes, le développement personnel et professionnel, chaque situation difficile, c'est une opportunité, d'apprendre et de grandir, la solidarité, le travail d'équipe qui est très important. Et en dernier, je dirais, c'est une passion, c'est un engagement personnel, c'est une vocation. Et c'est comme ayant but, c'est d'améliorer les relations humaines qui ne sont toujours pas très simples à l'heure où on est.
Pouvez-vous partager un moment marquant de votre expérience, un moment où vous avez vraiment senti que vous faisiez la différence pour quelqu'un ?
Alors, il y a deux moments auxquels j'aimerais parler. Mon premier moment, c'était j'étais en stage dans une association sur Amiens. Et j'ai assuré un service de médiation sociale dans le cadre d'une addiction. Donc j'ai une personne qui s'est présentée à moi. Il y avait un gros souci d'alcool. Et donc j'ai pu l'orienter, etc., etc. Et à la fin, j'ai réussi mon but. C'est que cette personne-là a été prise tout de suite en charge par une clinique sur Amiens. Et puis, dans mes contacts personnels, j'avais quelqu'un qui... je peux peut-être citer la personne. C'est l'association de Jean Manu. en fait, qui fait beaucoup de cas d'addiction et tout ça. Donc j'ai eu affaire à lui et c'est de là que cette personne-là a pris contact et tout s'est mis en, et tout s'est mis en route. La deuxième, que je pourrais parler de mon expérience qui m'a vraiment beaucoup touchée aussi, c'est que j'ai assuré un service de médiation dans le cadre d'une personne qui était enceinte, qui avait peu de ressources et qui était sur le point d'être sans domicile fixe. Donc c'est par elle, mon rôle à moi, ça a été de l'orienter. En premier cas, j'ai demandé l'aide avec ma direction si je pouvais aller chercher un panier d'urgence, parce qu'elle n'avait pas à manger, etc. Donc ça, moi, j'ai pu le faire. Et après, tout se met en route. Je lui ai donné des conseils, tout ça. Et vu l'urgence aussi, c'est quelqu'un que j'ai vu régulièrement. Pour les deux personnes, de toute façon, les deux personnes, c'est quelqu'un où j'ai pris des nouvelles régulièrement. On s'est entendu par téléphone régulièrement. Et voir un petit peu si ce que j'avais pu donner a été bénéfique ou pas. Et au final, oui. Donc pour moi, c'est une grande, grande réussite et satisfaction.
D'accord, merci. C'est deux beaux exemples qui montrent le rôle important qu'est la médiation sociale.
Exactement.
Et pour la dernière question, si tu devais résumer ta mission en une phrase, que dirais-tu ?
Alors, ma mission en une phrase, je dirais que la mission d'un médiateur social, c'est de prévenir et résoudre des conflits en favorisant le dialogue, l'entente et le lien social entre les personnes concernées.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage inspirant. Vous nous rappelez au-delà que des droits et services, il y a toujours un engagement humain et un lien à construire. Cela nous réconforte dans l'idée de savoir qu'après le diplôme de médiatrice sociale d'accès aux droits et services, qu'il y a beaucoup de débouchés. Bravo pour ton engagement et ton aide et bonne continuation.
Merci à vous en tout cas, merci.
Merci à vous auditeurs de Radio Campus Amiens d'avoir été avec nous pour Un pont vers l'humain. Pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus ou se lancer, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'AFPA. Au 09 72 72 39 36, ouvert du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h à 17h, et du vendredi de 8h à midi. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur le site de Radio Campus Amiens 87.7, également leurs réseaux sociaux sur Instagram, Facebook. Si vous avez la moindre question ou que vous avez besoin d'un renseignement, n'hésitez pas à nous joindre sur notre adresse mail professionnelle qui est gm.mediatriceaupluriel@gmail.com. Cette émission est maintenant terminée, nous nous retrouverons prochainement avec de nouveaux intervenants.